France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Cette dernière édition de la semaine est largement consacrée aux initiatives culturelles. On commence, comme chaque jour, par une petite histoire familiale en Haute-Marne. Celle d'un petit-fils qui vient de redonner vie au café-concert créé au siècle dernier par son grand-père dans un village qui ne compte que 150 habitants. Christophe a redonné vie donc à ce lieu hors du temps qu'il a baptisé le bal du père Bichot. Il va s'en expliquer dans quelques secondes. Nous serons ensuite en ligne avec Christine Gendrose, pianiste et professeure de musique qui annonce la naissance de son invention, silence, un métronome silencieux.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Christophe Fèvre, bonjour.
Bonjour Philippe.
C'est un vieux rêve auquel vous pensez depuis 30 ans de recréer un café-concert chez vous.
Alors oui, c'est vrai, ça fait 30 ans que l'idée me trotte dans la tête. Alors pas forcément sous la forme où je l'ai faite. Mais c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, j'ai eu une espèce de flash en me disant, en entrant dans une salle de spectacle, en me disant j'aimerais bien avoir ma salle à moi, parce que je suis musicien depuis l'âge de 10 ans. Et je l'ai fait seulement en 2016, le rapport, en me disant que je pouvais faire ça ici, chez moi, là, puisque j'ai repris la maison du côté maternel de mon grand-père et de ma grand-mère.
Qui avait ouvert donc ce café, et puis... Deux fois par an, il y avait le bal du village dans une salle attenante, le garage. Et aujourd'hui, c'est votre lieu, c'est le lieu du bal du père Bichot.
C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, le café de mon grand-père, de mes grands-parents, se tenait comme dans la plupart des villages, ça se tenait dans la cuisine de l'habitation. Alors ouais. Moi, j'ai hérité de l'habitation et je pouvais pas décemment rouvrir le café là. Par contre, c'est vrai que mon grand-père avait acquis, à un moment donné, ce qu'on appelle le garage, c'est-à-dire une salle qui fait 50 mètres carrés, et dans laquelle il organisait deux fois par an le bal de la fête patronale. Et donc, c'est un lieu qui m'a paru vraiment intéressant, parce qu'il y a de l'histoire, il y a la place. Alors par contre, là, il y a la place. Et puis, j'avais aussi la place, parce qu'il y avait deux pièces à côté qui étaient inutilisées. Donc, j'ai eu la place de faire une cuisine et puis des sanitaires pour accueillir le public. Et donc, je l'ai réalisé fin 2021, on a ouvert en décembre 2021 et je travaillais dessus depuis début 2020. En
fait. Parce que le café de votre grand-père a fermé en 1957 et oui. Récemment, France 3 a consacré un reportage à votre lieu, le bal du père Bichot. Père Bichot, c'était le surnom donné à votre grand-père. Dans ce reportage, il y a les habitants âgés du village qui ont connu le café de votre grand-père et qui reviennent avec un grand plaisir.
La parenthèse, elle est de plus de 60 ans pour bah oui. Du café du jardin, hein, pour le café de mon grand-père. Par contre, c'est vrai qu'un petit peu après, la licence 4 avait été rachetée par un autre monsieur du village qui a ouvert un café. Mais le café, celui-là, s'est fermé en 1980. Donc on a un manque, j'allais dire, d'animation dans le village, qui est dans un milieu rural. Hein. Petit village de 150 habitants qui s'appelle Cours-l'Évêque. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui reviennent et qui se souviennent et qui me donnent des exemples, des souvenirs du café de mon grand-père. Ils se souviennent de la salle de bal. Et c'est vrai que ça recrée un lien inespéré. Hein. Franchement, par exemple, j'ai récupéré des tables que ma mère avait gardées de l'ancien café sans imaginer un seul moment que les tables allaient être réutilisées. Et ouais. Donc... C'est totalement inespéré de se dire que le petit-fils va rouvrir le café du père Bichot, ça c'est sûr. Hein.
Et vous travaillez en famille.
C'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien aussi travailler avec mon grand frère, ma grande sœur, parce que finalement c'est aussi leur grand-père et c'est leur histoire. Et mon grand frère, lui, qui est graphiste dans la publicité, s'est occupé de toute la communication du logo, par exemple. Et puis ma grande sœur, je l'ai employée pour faire le service, parce que comme je suis musicien, donc comme c'est un café, mais qui est aussi un café-concert, j'y fais de la musique. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour le service.
Il y a un espace d'exposition, et vous n'allez pas vous arrêter là, parce que bon, tout est récent, hein, vous avez ouvert en décembre.
Ouais, c'est ça, oui, on a ouvert en décembre, histoire de se roder un peu, parce qu'en fait, du côté animation, on connaissait un peu le métier, on va dire, mais du côté purement du café... petite restauration, on ne connaît pas du tout. Donc, on a eu une petite période de rodage. On peut dire vraiment qu'on a commencé l'activité début de l'année, hein, janvier 2022. Et c'est vrai qu'il y a, je veux y mêler plusieurs choses. C'est vrai que j'ai un grand mur de, d'exposition pour ouvrir une petite fenêtre sur la culture locale, en fait. Donc là, j'ai commencé par un photographe animalier qui est du coin, et puis je voudrais exposer des artistes qui sont du coin aussi, qui peignent ou qui font de la photo également par ailleurs, quoi. Oui.
Alors il y a une petite scène avec des artistes qui viennent se produire, mais moi j'en reviens quand même à l'appellation, le bal du père Bichot. Imaginons le retour des balles à la campagne.
Ouais, ce serait, ben, c'est une bonne idée, hein. C'est une chose qui est tombée complètement désuétude, hein. Moi j'ai créé un orchestre de bal entre 1987 et 97, et c'était encore la période où il y avait des balles, et puis ça s'est arrêté dans les années 2000, parce que ça a disparu, il y a plus besoin, ça a été remplacé par d'autres choses. Mais c'est vrai que si on pouvait refaire un petit peu le bal ici, en tout cas une fois par an au minimum, le bal de la fête patronale, ce serait sympa, ouais. Alors le lieu, ça s'appelle le bal parce que c'est là où se passait le bal, hein, et le père Bichot, c'était donc le surnom de mon grand-père. Et c'est vrai que c'est un peu confusant parce que les clients peuvent s'attendre peut-être à se dire c'est un endroit où on va danser, mais on n'a pas la place. On n'a pas la place de danser. Cela dit, on peut pousser un petit peu les tables.
Bien sûr.
Ça m'a un peu ému une soirée où j'ai vu des gens à nouveau spontanément se lever puis danser un petit peu. Mmh. C'était émouvant parce que pendant 64 ans, il n'y a pas eu de danse du tout là, et puis ça sortait naturellement. Ça c'est très intéressant, ouais.
Le bal du père Bichot, c'est une plongée dans le temps, mais c'est aussi une plongée dans la convivialité. Le bal, ouais. Du père Bichot.fr. Merci Christophe.
Merci Philippe. Au revoir, à bientôt.
France Inter, carnet de campagne.
Comme nous parlons d'initiatives culturelles, on voici une très récente qui nécessite des explications. Elle s'appelle la conciergerie. Elle n'a rien à voir directement avec les conciergeries qui poussent aux abords des villes afin de proposer des services aux salariés des entreprises. Ici, à Châtois-le-Nau, 115 habitants au sud de la Haute-Marne, c'est ouvert en mars 2021. Cet endroit qui est pensé, je cite, comme un laboratoire autonome de recherche plastique et théorique sur les arts et les sciences humaines et naturelles. D'où le besoin donc d'expliciter les missions que les fondateurs de cette conciergerie se sont données. D'abord, l'espace accueille des artistes contemporains sous une forme de résidence revisitée. En effet, ces créateurs sont appelés à penser leur travail sur le terrain en intervenant avec les habitants, les associations, puis aussi les organismes publics ou privés sur le territoire d'intervention dans le but de créer une mémoire collective. Alors pour clarifier encore davantage et simplement les ambitions de la conciergerie, il s'agit de réveiller et de révéler le patrimoine existant grâce aux recherches et au travail réalisé par l'artiste invité. Comme l'écrit Mathilde, cofondatrice de la conciergerie, la volonté de départ est de pratiquer l'itinérance et non l'organisation d'expositions dans un espace clos et donc par définition peu propice au lien avec les populations locales. Illustration actuelle avec la résidence de Frédéric Gagné dans la petite commune de Conce, connue pour ses extraordinaires jardins suspendus. L'artiste explore durant un mois les espaces, les paysages, en y réalisant 1800 photos ainsi que des enregistrements sonores. Chaque jour, l'artiste rencontre les habitants dans le bistrot du village afin de partager le récit de ses explorations. Et lors du lancement du programme, la conciergerie a gagné un appel à projet des ateliers Médicis qui aident les jeunes créateurs à se professionnaliser, tout comme le souhaite cette association marnaise vraiment originale. Le site, c'est laconciergerie52.wordpress.com. Christine Gendrose, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous avez mis combien de temps à concevoir votre métronome très particulier que vous avez appelé Silence ?
Alors en fait, c'est le fruit de nombreuses années d'enseignement, de beaucoup d'idées qui ont tourné dans ma tête pendant longtemps et d'un constat que j'ai fait auprès de tous les musiciens à qui j'enseigne depuis plus de 40 ans. C'est que pour les musiciens qui ont un petit peu de mal à ressentir la pulsation, c'est un peu un leurre de penser que le métronome sonore va pouvoir les aider.
Ah oui, parce qu'il fait tic-tac, tic-tac. Voilà. Enfin, il donne le rythme.
Voilà, il donne le rythme, mais étant une machine, il est absolument parfait. Et il va prendre en défaut à chaque signal sonore le malheureux musicien qui, justement, n'arrive pas à jouer en mesure. Alors évidemment, les musiciens qui n'ont aucun problème de pulsation vont pouvoir facilement l'utiliser, mais à vrai dire, ils n'en ont pas vraiment besoin. Et les musiciens qui ont un petit peu de mal vont être tout le temps pris en défaut, plusieurs fois par minute. Et sur le plan pédagogique, au bout de quelques années, je me suis dit finalement, c'est pas une très bonne idée de répéter à quelqu'un qu'il est pas très bon pour lui permettre de progresser.
Puis ça, voilà. au bout d'un moment, sincèrement, ça casse les oreilles.
Et ça casse les oreilles, on est d'accord.
Hein, le vôtre est silencieux ?
Le mien est silencieux. Il a une baguette qui est très visible parce qu'évidemment il faut compenser l'absence de son par quelque chose de vraiment visible. Donc la baguette est beaucoup plus longue que la baguette d'un métronome mécanique tel qu'on le connaît. Ce qui fait qu'on peut regarder la partition et on va quand même voir la baguette de silence sans avoir besoin de la fixer avec les yeux.
Mais alors comment cela est-il possible ?
Alors c'est possible par la vision périphérique de l'être humain, du musicien. Tout comme le musicien quand il est par exemple en situation au pupitre dans un orchestre, va regarder sa partition et va néanmoins voir le geste du chef même lorsqu'il ne regarde pas le chef.
Oui. Mais est-ce que le tempo peut être rendu, par exemple, par un flash lumineux ?
Oui, ça pourrait, mais alors l'inconvénient des flashs lumineux qui existent sur certains métronomes électroniques en mode silence, l'inconvénient du flash lumineux, c'est qu'on ne sait pas quand il va arriver. Alors qu'avec une baguette à oscillation, comme sur les métronomes mécaniques tels qu'on les connaît ou sur silence, on voit le parcours de la baguette et on devine, on peut anticiper plutôt le moment où va arriver la pulsation, puisqu'on voit tout le parcours entre les deux pulsations.
Je vais tenter de vous poser encore des questions intelligentes. Alors je m'essaye.
Oui.
Est-ce qu'on peut le poser sur son pupitre ?
Alors on peut pas tellement le poser sur son pupitre parce que il est un tout petit peu trop grand pour le poser sur un pupitre. On peut le mettre sur un piano, sur une table, ou si on a un second pupitre, on peut le mettre sur un pupitre qu'on aura mis à l'horizontale. Mais il a surtout beaucoup d'autres particularités qui sont vraiment très intéressantes, qui font partie de l'objet du brevet notamment. C'est qu'il est dirigé par une application mobile. Et ça, c'est la première fois qu'on a un métronome physique, qui est un objet physique et qui est commandé par une application. Et il ne se contente pas d'être commandé par l'application. Cette application permet des choses fabuleuses que les musiciens vont adorer, mais pas que les musiciens. C'est-à-dire qu'on peut le faire ralentir, le faire accélérer, lui demander de faire des pulsations variables, pas seulement des pulsations tout le temps régulières.
Oui.
Et ça, selon les partitions qu'on travaille si on est musicien, ou pour par exemple pratiquer la cohérence cardiaque sur certains rythmes selon le résultat qu'on veut, ça va être très 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 précieux et très facile à utiliser.
Mais alors, vous avez fait appel à des entreprises de votre région et en particulier de Laval ?
Tout à fait. Alors là, il faut imaginer que je ne suis évidemment pas seule à faire toute cette aventure. C'est 17 entreprises en tout, si je me compte. Donc 16 partenaires qui sont autour de moi en train de s'activer et de faire tout ce qu'il faut pour ce lancement, dont les deux principales entreprises sont de Laval, effectivement, celle qui conçoit le prototype et celle qui conçoit l'électronique qui est dans l'objet et qui développe l'application mobile qui va servir à piloter Silence.
Il ressemble à quoi ?
Il ressemble à un joli galet de mer. Il est très doux, il est légèrement translucide, il est dans une très belle biorésine.
Et vous ouvrez une campagne de crowdfunding ?
J'ai ouvert une campagne de crowdfunding, exactement, ces derniers jours. Elle est en route et pour la rejoindre, c'est sur Ulule. Donc c'est accessible à partir de tous les budgets, à partir de 10 euros. Pour rejoindre cette belle aventure et soutenir le projet.
Alors, rendez-vous sur la plateforme Ulule pour Silence. Merci et bravo pour l'invention, Christine.
Merci beaucoup pour l'invitation, Philippe.
Et puis, pour boucler cette édition 100% culturelle, je vous conseille vivement de visiter le Petit Paris à Saint-Dizier, en Haute-Marne, hein, toujours. Le Petit Paris, c'est d'abord une maison d'art brut dont les façades et les murs intérieurs ont été décorés par le propriétaire des lieux dans les années 50. Inscrite en 1984 à l'inventaire des monuments historiques, cette maison a été rénovée en 2012 avant que l'association Petit Paris ne l'investisse en 2018 pour y créer un bar à associatif. 20 bénévoles s'y activent quotidiennement, avec à la clé des animations culturelles multiples, des concerts, des apéros culturels, du cinéma, de la littérature et des ateliers en pagaille. Il y a une page Facebook pour ce lieu extraordinaire, Bar au Petit Paris. Merci à Joël Levert qui nous accompagnait pour les carnets. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter. Ça tombe bien aujourd'hui, il y a une technicienne, c'est Élise Christophe. Merci Élise. Et merci à Loïc Frapsos pour la diffusion.